Et ce matin, sur les ondes médias, nous avons décidé de revenir également et d'essayer de comprendre ce syndrome du bon élève. Il est aussi appelé le syndrome du premier de la classe, cet état qui entraîne souvent angoisse et burn-out. Alors, quels peuvent en être les symptômes et les conséquences à long terme? On en parle aujourd'hui avec notre spécialiste en psychiatrie, Dr Othmane Lorabi. Bonjour.
Bonjour Myriam, et ravi d'être avec vous, comme à l'accoutumée.
Merci beaucoup de répondre toujours présent à cette invitation. Alors d'abord, ce syndrome du bon élève, qu'est-ce que c'est ?
Le plus souvent, donc, on parle d'âge scolaire, donc d'enfants ou d'adolescents qui ont justement, qui travaillent beaucoup et qui le permettent d'avoir de très bonnes notes ou d'être les premiers de la classe. Et ce qui est remarquable, c'est que ce sont souvent des enfants qui sont un petit peu anxieux, qui sont sérieux, entre guillemets, hein, notamment vis-à-vis du travail scolaire, oui. Et qui accordent une très grande importance justement à l'obtention de ces fameuses bonnes notes. Jusque-là, rien de problématique, hein, c'est plutôt quelque chose de valorisé socialement et scolairement d'avoir de bonnes notes. Mais là, on commence à y avoir un problème, et c'est là où on va commencer un petit peu à définir les syndromes, c'est quand cette peur commence à se manifester de manière un peu, je dirais, intense. Parce que, entendons-nous bien, ce qui nous motive à fournir un travail scolaire, à fournir n'importe quel travail d'ailleurs, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être transposé chez l'adulte, c'est toujours le fait de vouloir avoir une réussite dans notre action, l'action qu'on entreprend, et d'avoir un bon rendement. Donc, et c'est la peur d'échouer quelque part, oui. Ou de ne pas y arriver, ou de ne pas renvoyer une belle image, socialement parlant, encore une fois, qui va nous pousser à fournir l'effort. Revenons aux enfants. Il y a, à un certain moment, cette peur, ou ce niveau de peur, ce niveau de stress, peut augmenter et commencer à avoir des manifestations qui sont plutôt négatives. Hein, que ce soit en termes d'intensité de la peur ressentie, mais quelquefois aussi par des manifestations psychosomatiques. Hein, la fameuse boule au ventre, d'avoir des tremblements, d'avoir la voix qui tremblote, d'avoir des suées, etc. Donc ce sont des manifestations physiques qui peuvent apparaître quand les choses commencent un petit peu à s'aggraver, si bien qu'à ce moment-là, on va plutôt parler d'anxiété de performance. Hein, et donc c'est l'ensemble de ces symptômes que je viens de citer qui va se manifester précisément dans des situations d'évaluation scolaire, que ce soit, alors quelquefois ça peut être spécifique, c'est-à-dire ça va être uniquement quand on est amené à aller au tableau pour résoudre un exercice ou pour faire un exposé ou ce genre de choses, mais quelquefois ça peut être généralisé, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un enjeu de notes, hein, ou d'appréciation, donc même pour des devoirs à la maison, même pour les évaluations, etc. Et à ce moment-là, voilà, cette peur peut devenir tellement intense qu'au final, elle va plutôt être inhibitrice. C'est-à-dire que plutôt que d'arriver à fournir l'effort, on est figé. On est figé, je dirais, au sens littéral du terme, y compris mentalement, c'est-à-dire qu'on a du mal à se concentrer, on a du mal à maintenir son attention, et c'est un cercle vicieux, parce que moins on y arrive, plus on est anxieux, et moins on y arrive encore. Donc c'est un peu ça, le fameux syndrome du premier de la classe, dans comment est-ce que ça apparaît, et puis comment est-ce qu'à un certain moment le phénomène peut s'emballer, et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, enfin là on parlait d'exemples scolaires, mais c'est strictement transposable à l'adulte, et c'est bien souvent le cas chez l'adulte, j'insiste, ça s'appelle aussi l'anxiété de performance, ça peut s'intégrer dans une problématique beaucoup plus large, hein, qui est une problématique d'anxiété sociale. J'explique le lien. Oui. En général, quand on a cette anxiété de performance, on cherche à être reconnu. Je parle de reconnaissance aux yeux, si je reprends l'exemple de l'élève, de nos parents, de nos professeurs, de nos camarades, de la société de manière générale. Mais c'est parce que bien souvent, on a cette notion que la reconnaissance sociale passe à travers la valeur réussite,
C'est ça.
Si je peux me permettre de dire les choses comme ça. Or, justement, alors quand on est dans ce genre de fonctionnement, l'enjeu c'est d'être reconnu par les autres. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir des manifestations autres qu'en situation de performance, donc qui sont liées à cette anxiété sociale où on va juste chercher à tout prix à plaire à la personne, dans le sens à ne pas déplaire, à ne pas dire non, à ne pas refuser de rendre des services, etc. C'est souvent quelque chose qu'on retrouve à côté de l'anxiété de performance, c'est-à-dire qu'on va retrouver un fonctionnement à peu près identique dans les interactions sociales, dans le sens où on va être à la recherche toujours de l'optimisation, du rendre-service, du fait d'être apprécié par les autres, reconnu comme étant serviable, agréable, tout ça, alors que la reconnaissance, justement, parce que c'est la notion qui est importante, la reconnaissance sociale, quand on mûrit à travers les différentes expériences que l'on vit, à travers les différents échecs que l'on vit, parce que l'échec, c'est justement la voie de la réussite, on arrive à se rendre compte que la reconnaissance n'est pas forcément liée, on n'est pas uniquement conditionné par le fait de réussir dans ses tâches ou pas, mais il y a d'autres valeurs morales qui nous confèrent justement une valeur sociale. Hein. Mais ça, j'allais vous dire, pour en revenir à notre sujet d'anxiété de performance, c'est qu'il faut, vivre des échecs, donc dans le sens, il faut vivre des expériences où justement le résultat ne sera pas aussi positif qu'escompté, pour se rendre compte des choses, pour se rendre compte et pour arriver à se détacher de cette dimension réussite totale. Et si je peux me permettre de continuer dans ma digression, c'est très important, parce que le plus souvent, comment est-ce qu'on arrive à presque jamais échouer quand on est en âge scolaire ou l'adolescence ou au début de notre carrière professionnelle? C'est parce que très souvent, parce qu'on se fait guider. On se fait guider, et le fait de se faire guider, ça veut dire qu'on n'exerce pas nos choix, on n'exerce pas nos décisions. Et c'est doublement problématique, parce qu'à partir du moment où on n'exerce pas notre liberté de choisir et notre liberté de nous tromper, les expériences qu'on peut vivre, qui peuvent être soldées par un échec, on n'en apprend pas grand-chose finalement, elles ne nous permettent pas d'aller de l'avant justement vis-à-vis de cette problématique.
Alors je parlais d'angoisse et de burn-out, quelles pourraient être les conséquences à moyen ou à long terme donc ?
Alors ça, c'est la mécanique, je dirais, quasi mathématique de tous les troubles anxieux.
D'accord.
À partir du moment où on a une anxiété qui est exagérée vis-à-vis d'une situation qui finalement va se présenter tous les jours, quand on parle d'anxiété de performance, il y a un effort mental, cérébral, supplémentaire qui est fourni tous les jours par la personne et par l'organe lui-même, le cerveau et tout le corps, de manière générale. Et ça, forcément, ça va nous exposer à ce qu'on appelle des burn-out, c'est-à-dire une situation où biologiquement, mentalement et psychiquement, on a dépassé nos capacités d'adaptation pendant un temps trop long. Ce sera ça le burn-out. Et ce, d'autant plus que quand on parle d'anxiété de performance, il y a toujours des schémas anxieux, entre guillemets, qui sont associés. Qu'est-ce que j'entends par des schémas anxieux? C'est par exemple la tendance au perfectionnisme. C'est un schéma qu'on va retrouver très souvent chez les gens qui ont cette anxiété de performance. Mais le schéma de perfectionnisme, c'est quelque chose qui fait tourner le cerveau réellement au sens du terme. Tous les jours, dans à peu près tout. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on est dans cette situation de dépassement des capacités, ça peut se manifester soit par, je le disais tout à l'heure, donc les symptômes psychosomatiques qui vont être de plus en plus permanents et quelquefois même hyper intenses, réalisant des attaques de panique, par exemple, ou des crises d'angoisse. Ça peut être l'apparition d'une dépression, hein, c'est-à-dire avec ce qui va apparaître au premier plan, des difficultés croissantes à arriver à travailler, à se concentrer, à être dans le, dans le rendement, le fait de se sentir fatigué, de se sentir tout le temps stressé, de ne pas arriver à lâcher prise, dans le sens de ne pas arriver du tout à être soulagé, même quand on se met dans des environnements propices au divertissement ou à la joie, etc. Donc, c'est ça, le plus souvent, ce qui arrive. Et malheureusement, c'est pas souvent, je dirais, perçu par les personnes qui en souffrent comme étant une situation pathologique. Parce que, bien sûr, vu de l'intérieur, on a juste l'impression que c'est un continuum d'un état où j'étais anxieux et où là, j'y arrive plus et ça me renvoie encore plus une image négative de moi et je me mets encore plus la pression et il faut que j'essaie de réussir à tout prix. Et c'est un cercle vicieux qui est extrêmement pourvoyeur de souffrances au niveau individuel et quelquefois même au niveau de l'entourage, hein, des personnes qui de l'entourage des personnes qui en souffrent.
Et absolument, et on en parlera de cet entourage. Alors, quand savoir, quand avoir recours à cette aide psychiatrique ?
Dès lors que la souffrance est importante. Hein, ça, c'est très important. Les troubles psychiatriques ont toujours été définis par le fait qu'il y ait une souffrance, hein, une souffrance ressentie. Ça, c'est important. Quelquefois, on parle de souffrance ressentie par l'entourage de la personne pour les pathologies beaucoup plus graves quand les personnes ne sont pas conscientes de leurs troubles. Mais voilà, pour les troubles anxieux, c'est vraiment à partir du moment où la personne en souffre. Et quand est-ce que la personne en souffre ? C'est quand il commence à y avoir ce que je disais, trop souvent les symptômes physiques, ce sont des douleurs, hein, des gènes au niveau abdominal, au niveau thoracique, des maux de tête, ça peut être aussi des troubles du sommeil, ça peut aussi être le fait d'être tout le temps sur ses nerfs, de supporter de moins en moins de choses. Donc c'est souvent quand il y a un emballement en fait de ces mécanismes ou l'apparition de choses qui pourraient ressembler à de la dépression qui doit faire consulter un spécialiste. Ça, quand je dis un spécialiste, je parle du médecin. Mais à partir du moment où on commence à être conscient qu'on a des schémas de ce genre, où on commence à se rendre compte qu'on ne peut pas s'empêcher d'être perfectionniste dans toutes les tâches professionnelles, à partir du moment où on se rend compte qu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas faire quelque chose qu'on pourrait ne pas faire, hein, dans le cadre du travail ou même dans le cadre des relations interpersonnelles, et ben ça doit nous interroger et pourquoi pas aller toquer à la porte d'un ou d'une psychologue pour discuter des choses, pour voir s'il y a lieu de travailler tranquillement sur ses fonctionnements, d'expérimenter de nouvelles choses. Oui. Ça, c'est clair.
D'accord. Alors justement, cet entourage, quel pourrait être son rôle finalement ?
Il ne faut plus, à mon sens, associer l'échec donc à une tâche, à un devoir, à un travail quelconque, au fait d'avoir une valeur personnelle qui n'est pas suffisamment bonne. Hein, entendons-nous bien, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser toute la société, le fait d'être dans l'inclusion, dans l'acceptation des différences, dans la bienveillance même vis-à-vis des entre guillemets des manquements des gens par rapport à comment ils sont ou comment ils conçoivent les choses. Donc c'est surtout la tolérance et s'abstenir de juger quand on est face à un enfant qui n'arrive pas à faire un exercice ou à résoudre un problème ou autre, le fait de dire mais tu es bête, par exemple, mais tu es idiot, mais tu comprendras jamais, tu comprends jamais, ce sont des choses assez totalitaires dans leur sens, hein. C'est-à-dire que on dit à l'enfant tu vaux rien, tu n'y arrives pas, donc tu vaux rien. Et justement, il faut sortir de ces mécaniques-là. Et c'est aussi valable aussi pour les adultes, hein, parce que souvent dans nos interactions entre adultes, même dans la plus grande bienveillance, on va se retrouver à dire à quelqu'un, ah ouais, mais t'aurais pas dû faire ça, mais ça se voyait que t'allais pas y arriver. C'est des petites choses qui font monter un peu la pression, justement, chez l'individu qui a déjà une tendance à être craintif en situation de performance, vis-à-vis de, justement, la prochaine fois qu'il sera amené à démontrer de sa performance et de sa valeur, entre guillemets, réussite. Hein, et donc, voilà. Et donc, s'abstenir de juger, ça reste le conseil numéro un. Être bienveillant et patient, y compris en cas d'échec répété, et puis être dans une démarche active de réflexion sur qu'est-ce qui n'a pas marché. Trouvons la solution, expérimentons la solution, trouvons une autre solution si ça ne marche pas. Enfin, ça devrait être la règle, mais ça, je suis conscient que ce serait dans un monde idéal.
Et on va rester sur cette note. Merci beaucoup, docteur.
Merci à vous.
Atman Lorabi. Je rappelle que vous êtes psychiatre à Casablanca. Merci d'avoir été avec nous cette semaine encore, et à très très vite sur Média.
Très bientôt.